Vous écoutez France Culture.
Studio 168. Aude de la Vigne, Xavier Delaporte, avec Tristan Francoise, Marie Dalquier, Thomas Beau.
Bonsoir à tous. Quatre auteurs se sont réunis pour écrire un livre sur les BCBG. Non, il ne faut pas dire les BCBG, il faut dire les BC branchés. Mais pourquoi donc ? Eh bien parce qu'ils ont une modernité et une largesse d'esprit que leurs aînés, les BCBG, n'avaient pas. Dixit Jean-Baptiste Giraud, co-auteur du livre dont on va parler ce soir, co-auteur avec Flore Ozanne et co-auteur également avec nos deux invités ce soir, Laure de Charette et Inès Lacaille, qui sont ici présentes, que nous recevons, alors que leurs maris sont en régie, donc émission sous le haut patronage de vos deux époux. Mesdames, pour parler donc de ce livre écrit à quatre personnes, à huit mains, vous Inès.
À quatre mains, hein. On n'écrit pas des deux mains.
C'est vrai ?
Ouais, ouais.
Ouais, je pensais que quand on faisait un livre...
Oui, je sais,
à
mais
deux,
c'est n'importe quoi. On écrit à deux mains, enfin avec une main, donc ça fait à quatre mains.
D'accord. Donc ce livre écrit à quatre mains, mais qui réunit quatre.
Enfin, sauf si on écrit par ordinateur, et dans ce cas-là, effectivement, c'est huit mains.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. Ouais. Enfin bon, est-ce que c'est une parenthèse ?
À mon avis, c'est écrit quand même avec un ordinateur. Mais bon, bref, c'est pas. Je voulais juste dire qu'il y avait quatre personnes qui avaient écrit.
Excusez-moi.
Donc il y a Laure de Charette, Flore Ozanne, Inès Lacaille, Jean-Baptiste Giraud. Laure de Charette est journaliste par ailleurs. Au journal 20 minutes. Inès Lacaille signe plus particulièrement les illustrations de ce livre qui s'appelle, maintenant je vais vous le dire, Le guide des BC branchés. C'est aux éditions de l'Archipel. Ce n'est pas encore sorti, ça sort le 17 mai. Mais à l'aide des épreuves et des dessins que vous nous avez apportés, on va ce soir réussir à dessiner les contours de cette catégorie-ci.
C'est une tribu même, on peut dire.
De cette tribu si exotique.
D'exotisme, on va parler aussi, mais alors d'une autre forme d'exotisme, avec Émilie Vialet, qui est photographe, qui est là ce soir. Oui. Alors, si vous êtes ici, en fait, faut juste que rendre grâce à notre excellent confrère François Chalin, qui fait tous les mercredis. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission, mais écoutez-là, c'est extraordinaire. Entre
les BC
10h
branchés
et
11h. France Culture.
Métropolitain.
Pas beaucoup.
Exactement.
Ça ne fait pas forcément partie des médias.
Très bonne émission.
Voilà.
Écoutez,
c'est une très
l'instant.
Bonne émission d'architecture qui s'appelle Métropolitain. Et il y a quelques jours, il fait souvent, François Chalin fait une sorte d'agenda comme ça, où il explique ce qu'il y a à voir, à entendre. Bon, voilà. Et il parlait d'une exposition de photographie qui avait lieu à Paris, dans le 3e arrondissement, celle d'Émilie Vialet. Il citait en particulier une série qui s'appelait Les Meulières, dans laquelle étaient photographiés des pavillons de banlieue, mais qui venaient à peine d'être construits, des sortes de fins de chantier de pavillons de banlieue. Alors je ne sais pas pourquoi, mais les pavillons m'intéressent, les zones pavillonnaires m'intéressent, me fascinent. Et donc je suis allé dans le 3e arrondissement, à la galerie Schumbrunstein, voir l'exposition d'Émilie Vialet ici. Alors... Peu de photos dans cette exposition. Il y a pas, c'est une petite galerie, il n'y a pas énormément de clichés. Surtout cette partie de l'exposition qui s'appelle Les Meulières, il n'y en a pas énormément. Quand on entre dans la galerie, comme ça, ce qu'on voit d'abord, c'est donc cette série des Meulières. Une dominance de couleurs très pâles. Le blanc des pavillons, de leurs murs, l'extérieur, la pâleur des tuiles qui sont utilisées aussi, des bleus pâles, des roses très pâles. Et tout ça à peine troublé par les restes de chantier, qui sont des restes matériels, ou alors par exemple des projections de boue sur ces murs, comme ça, très pâles, de ces pavillons. Il y a 8 photos de pavillons. Et on va commencer, parce qu'il y a plusieurs séries, mais on va commencer par celle-ci, parce que c'est la raison pour laquelle j'y suis allée. C'est quoi ce lieu ? C'est où ?
Alors, c'est un lotissement qui se situe en banlieue parisienne sud, à la sortie d'un petit village, donc une petite ville, on va dire. Donc c'est vraiment sur la zone en expansion de la ville. Donc c'est à la limite des champs, vraiment après le panneau de sortie de ville. Donc c'est un lotissement, vraiment un lotissement de sortie de...
Et vous êtes tombé comment, pardon, sur ce lieu, Emilia?
Alors moi, c'est parce que vraiment, je viens de la banlieue. Donc j'ai déambulé beaucoup sur ce territoire-là, donc voilà, je connais un peu l'endroit, j'ai vu ces paysages évoluer, dont celui-ci en fait. J'ai vu l'arrivée de ce lotissement donc, que j'ai pu suivre dès le départ.
Alors qu'est-ce qui vous intéresse? Parce que ce que je me suis dit, c'est pourquoi prendre les pavillons à ce moment-là? C'est au moment où ils sont finis mais pas encore habités, parce que vous auriez pu montrer les chantiers avant, ou alors montrer l'installation, ou alors montrer par exemple une progression temporelle. Et pourquoi vous montrez ce moment-là, qui est un moment étrange, il y a encore de la boue mais c'est fini?
Parce que justement, enfin, là, ce qui m'intéressait, c'était justement la blancheur du crépi, l'aspect propre, neuf d'un objet qu'on vend, vraiment un produit d'une propreté qui, c'est plus une maison, ça devient un objet par cet aspect neuf. Et en fait, il surgit de cette boue. En fait, c'est un moment où vraiment la boue entoure dans toutes les photographies, on la retrouve. Donc ça comment dire?
Oui, c'est ce qui vous intéressait, c'était cette espèce de moment entre le fini et le pas encore habité, ce moment de contraste entre boue en fait de la fin de chantier et l'objet quasiment terminé, c'est ça?
Voilà le paradoxe en fait de la construction, c'est-à-dire qu'il y a un vide énorme parce que c'est pas habité et en même temps on est obligé de penser que ça à la question de l'habitat, d'y vivre à un moment donné. Et à ce moment-là, on n'y pense pas du tout. Pourtant, quand on déambule dans ce lotissement-là, et c'est un moment important. C'est là où je pense qu'il y a tout le paradoxe de ces constructions hâtives.
Oui, puis ce qui est très beau aussi, c'est que c'est un moment qui précède le moment où les gens vont individualiser le lieu de leur habitat. Ouais. Alors, et parce que ces pavillons se ressemblent tous, ils ont tous un œil de bœuf, des fenêtres qui sont toutes au même format, le format habituel qui est le moins cher, c'est-à-dire le format... voilà. Et puis il y a aussi...
C'est
le
format quoi?
Mais c'est un format, parce qu'il y a un format de fenêtre qui est un format hyper standard, pas très un peu étroit, et ils ont tous ce format-là qui est un format très peu cher.
Il y a des symboles, donc l'œil de bœuf en fait partie, les tuiles en font partie aussi, c'est des symboles en fait qui rattachent à ce rêve pavillonnaire où on se dit ma maison sera comme ça. Donc c'est des symboles très 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 faibles qu'on attribue quand même dans cette architecture, qu'on met dans cette architecture et qui font un peu rêver les gens, se dire qu'ils accèdent à un certain stéréotype. Mais pourtant quand on les voit de cette manière-là, on se dit vraiment que ça n'a aucun... Enfin, c'est une absurdité. Rien que par le nom aussi de la série Les Meulières, l'absurdité est que la meulière est une pierre traditionnelle. Ces maisons, elles ne sont pas du tout construites en meulière. La meulière, ça n'existe plus. Donc on se dit...
Ça existe un peu du côté de Versailles, vous verrez tout à l'heure.
Les carrières de meulière, elles sont toutes...
Ah oui, par contre, oui. Les maisons sont construites et sont encore debout.
Voilà, mais on construit plus une maison
en meulière. On construit plus en meulière.
Voilà. Donc,
et surtout pas ce lieu-là.
Non, encore moins.
Donc, mais vous avez grandi dans quelle maison?
Moi, j'ai grandi dans une maison, un pavillon standard. C'est pas un lotissement, mais c'est un ensemble de maisons. Donc, le lotissement, après, c'est assez large. Je pense que le lotissement, ça existe depuis très très longtemps. Même la parcellisation de Paris en bâtiment haussmannien s'en est quelque part.
Et, non, c'est une forme de lotissement, ouais. Ça. Ouais.
Surtout maintenant. Et moi, j'ai vécu dans une zone pavillonnaire. Pas vraiment un lotissement où les maisons sont identiques et se différencient uniquement par la couleur des tuiles. C'était un peu plus personnalisé ou personnalisable.
Il y a une très belle, parmi les photos, donc c'est difficile de les décrire toutes les unes après les autres, les huit qui sont exposées.
Surtout si elles se ressemblent.
Oui, c'est vrai qu'elles se ressemblent, mais c'est des angles qui sont différents, ça joue sur des perspectives. Mais il y en a une qui est très belle, qui montre... deux garages, c'est-à-dire que vous voyez les deux extrêmes, enfin les deux parties des maisons, et puis au centre, vous avez les deux garages de ces maisons jumelles, mais simplement la seule chose qui les différencie, c'est la couleur de la tuile au-dessus du garage. D'un côté, c'est bleu pâle, et de l'autre, c'est rose pâle. Et cette photo est à la fois très belle, et très délicate et très triste.
Ben c'est ça, ce qui m'attriste et ce que j'avais envie de photographier, c'est à travers ce genre de justement d'achat de pavillons, pseudo-pavillons, on veut accéder à une forme d'individualisme, en fait. On rejette complètement le collectif, parce que le collectif, maintenant, ça a une connotation vraiment négative, péjorative, avec les cités, etc., l'après-guerre, tout ce qui s'est construit. Donc maintenant, on veut accéder à la propriété, on veut accéder à un rêve, et justement à s'individualiser. Et justement, dans ces deux couleurs, c'est ça que je trouve très drôle, c'est que par cette différence de couleurs, on va savoir que notre garage, c'est le bleu et celui du voisin, c'est le rouge. Et voilà.
Mais ce qui est intéressant dans votre travail, parce que c'est l'intérêt que vous-même vous portez à ces zones comme ça, un peu étranges. Il y a une série, alors qui n'est pas dans la galerie exposée, mais qu'on peut voir sur votre site internet, qui s'appelle. C'est une série sur les autoroutes, qui s'appelle Les coulisses d'autoroute. Et c'est une très belle série, dont le principe est tout bête. C'est quoi ? C'est que vous avez suivi les traces, les cicatrices d'une autoroute, mais on ne voit jamais l'autoroute, mais on voit les traces qui pourraient être laissées par l'autoroute dans le paysage, c'est-à-dire des rigoles d'écoulement d'eau, des grilles d'aération, dans un paysage par ailleurs assez bucolique.
Oui, très vert, parce que c'était au printemps. Mmh. Mais en fait, oui, c'est sur les bourrelets d'autoroute qui sont en fait des zones immenses à traverser. L'échelle est complètement modifiée une fois qu'on est à pied dans ces endroits-là. On se rend compte que c'est vraiment des prairies, des champs, des petits vallons. Enfin, il y a plein de choses à voir, plein de gens à rencontrer aussi, malheureusement. Enfin, pas toujours sympathiques, mais on peut être amené à être assez effrayé, en fait. C'est à des forêts qui sont un peu habitées. Alors quand on est seul à s'y balader, c'est un peu un terrain hostile. On ne sait pas trop sur qui on va tomber. Enfin, j'ai pas fait spécialement de mauvaises rencontres, mais c'est quand même un lieu où vont les gens qui sont mis à l'écart, vu que c'est un lieu à l'écart. Donc forcément, il y a des rencontres à y faire.
Qu'est-ce que vous aimez dans ces lieux ? C'est étrange de partir, parce que je vous imagine, je ne sais pas comment vous travaillez ça. Vous partez avec votre appareil directement, ou alors est-ce que vous y baladez comme ça sans votre appareil, après vous revenez faire des clichés ? Comment vous travaillez ?
Comme pour les lotissements, beaucoup de trajets en voiture. Beaucoup appréhender le paysage par la voiture.
C'est drôle, ça.
C'est essentiel, parce que je vais aller à pied dans des endroits qui ne prêtent pas à la balade, qui sont justement uniquement observé depuis la voiture, donc c'est un point de vue ralenti, en fait.
Et puis qui ne sont pas raccordés par les transports en public.
Voilà,
commun.
On ne peut vraiment pas y aller, donc il faut beaucoup escalader, etc. Et en fait, je choisis aussi donc, soit des villes que je connais bien, comme les Molières, pour la série des lotissements, ou les bordures d'autoroute. C'est mon trajet quotidien que je fais depuis maintenant 10 ans, entre chez mes parents avant et une gare. Donc voilà, c'est des paysages que je vois toujours de la même manière, de manière systématique, matin et soir, et j'avais envie de les traverser autrement, de les photographier, de les connaître.
Donc un jour, vous êtes arrêtée ?
Voilà, j'ai pris un point, je suis partie à pied jusqu'à un autre, et j'ai photographié.
Directement avec votre appareil ?
Oui.
Et est-ce que vous prenez beaucoup de clichés pour garder quelques photos, ou alors vous faites comme des gens il y a un photographe très bon photographe, c'est Bruno Serralon par exemple, il part à Bombay pendant 3 semaines, il va prendre 5 clichés. Est-ce que vous êtes de ce genre-là ou du genre qui...
Non, moi j'ai plus la frousse, alors je vais en faire un peu plus. Après, ça dépend du médium. En argentique, bien sûr, on va en faire beaucoup moins que si c'était du numérique, donc on économise un peu, mais j'en fais quand même suffisamment.
Alors là, on parlait des coulisses d'autoroute, qui est donc, je le précise, une série qu'on ne voit pas en ce moment à la galerie Schumbrunstein. Donc, on voit la série des Meulières quand on entre, c'est la première série qu'on voit, c'est 8 photos de pavillons très blancs comme ça. Et puis, en face, sur le mur d'en face, autre série de photos, elles sont 8 aussi, avec une agrandie, comme pour la série des Meulières, il y a une des photos qui est agrandie. C'est une autre série qui est une baie, ça s'appelle La Baie. Donc vous voyez des photos de mer, mais très très plates, de restes, par exemple, de béton comme ça au milieu de l'eau. Et évidemment, j'ai cru que c'était la baie de Somme. Or, ce n'est pas la baie de Somme.
Non, mais beaucoup.
C'est quelle baie ?
C'est la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà, la baie du Mont-Saint-Michel.
Photographier d'où ? Parce que c'est encore une fois très étrange. Et vous allez photographier la baie du Mont-Saint-Michel, on ne voit jamais ce qui est la raison pour laquelle on va dans la baie du Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire le Mont-Saint-Michel.
Oui.
C'est quand vous alliez en vacances avec vos parents.
En voiture.
Bah justement, c'était pas avec mes parents, c'est plus récent, mais j'ai toujours emprunté, pareil, de manière très répétitive, la route de la baie, donc c'est une route touristique très jolie. Et j'ai toujours été interpellée par un endroit, un espèce de lieu d'amarrage où les camping-cars s'arrêtent pour... mais
la
pas
voiture.
Pour observer le paysage, pas pour l'admirer, pas du tout pour manger. Donc je me suis arrêtée là aussi. Et par contre, là, j'ai photographié ce qu'il y avait autour. Et c'est venu de là, en fait. J'ai décidé d'emprunter toutes les routes qui ne sont pas des voies touristiques, pas forcément, ou qui ne prêtent pas au panorama. Et les photographier.
C'est quoi ? C'est éviter l'essentiel de ce que tout le monde regarde ? C'est regarder ailleurs, là où... voiture peut aller.
Ça peut paraître être ça, mais c'est juste que ces paysages-là, moi, me bouleversent beaucoup plus que peut-être ceux qui sont offerts à la vue sur des routes
panoramiques
qui vont border.
La route des vins, toutes les routes touristiques, vous aimez pas, c'est plutôt en allant vers des routes sans issue, près de l'usine, la carrière,
c'est pas vraiment
la bourse aux fleurs d'autoroute.
Pour m'extraire ou pour me dire j'ai un regard différent, je vais aller vers ce que les gens ne regardent pas, mais c'est plus que moi je vais tellement passer devant, c'est tellement quelque chose qu'on m'offre à la vue sans arrêt en me disant mais ne le regarde pas, ça n'a pas d'intérêt, que force, je vais être obligée de m'arrêter au bout d'un moment et...
Qu'est-ce qui vous émeut dans ces lieux-là ?
Je pense que ce qui m'émeut, c'est qu'il y a toujours la présence de l'homme, en fait, quelle qu'elle soit.
Pourquoi vous ne photographiez pas les hommes ?
J'aime pas ça.
Vous n'aimez pas, mais vous n'aimez pas les hommes,
vous n'aimez pas les hommes.
Mais disons que je pense que je photographie plus les hommes sans les hommes que s'ils étaient là, s'il y avait des protagonistes. Là, dans la série de la baie, c'est flagrant. Il y a toujours une dalle de béton, une barque, une espèce de
une palissade.
Comment ça s'appelle
Un remblai, des cailloux.
Une jetée.
Une digue. Il y a toujours la présence de l'homme partout dans toutes ces photographies. Donc.
Elle est là parce que c'est l'homme qui a construit la dalle de ciment, c'est ça ?
Oui, il a modifié en fait. C'est quand même la baie du Mont-Saint-Michel, dans l'imaginaire collectif, c'est un territoire vierge qu'on ne traverse pas. Effectivement, il est hostile, il faut faire attention. Et pourtant, il a été complètement modifié. Il y a une fonctionnalité,
C'est frappant ce rapport à l'homme. C'est d'autant plus frappant dans la troisième série qu'on peut voir toujours à la galerie Schumbrunstein, votre série Émilie Viallet, qui s'appelle C'est Late and Found. Alors là, c'est très bizarre.
Ça s'appelle comment ?
Late and Found. Laissé et trouvé. Left, pardon, left and found. Excusez-moi, laissé. Non, vous avez raison, parce que c'était n'importe quoi ce que je disais. Donc, left and found, laissé et trouvé. Et donc, vous avez. C'est très étrange. Vous avez des triptyques, donc trois photos, comme ça en série. Vous avez. Sur la première photo à gauche, un vêtement tel qu'il a été trouvé dans un lieu, un vêtement abandonné. Donc vous avez un sweatshirt, un peu forcément très crado, couleur un peu bordeaux, etc. Vous avez un pantalon qui ressemble à une sorte de pantalon de caouet, verdâtre, trouvé dans un truc. Vous avez donc à gauche ces photos de vêtements trouvés. Au centre, le vêtement qui a été aplati. Il est toujours sale, mais il est aplati, il est photographié comme ça, dans toute sa surface. Et photo de droite, vous avez le même vêtement, une fois qu'il a été lavé, et il est porté par un mannequin, qui est en l'occurrence une jeune fille dont on voit à peine le visage. Vous avez vraiment un rapport complexe au fait de photographier des êtres humains, puisque en l'occurrence, on le voit à peine. Et ça, c'est encore la question de l'effacement de l'être humain, elle est très étrange encore dans cette série, encore plus peut-être que dans les autres. Émilie Viallet.
Justement, je trouve qu'il n'est pas si effacé. Enfin, il y a quand même une recherche, il y a quand même une quête d'identité à travers le vêtement qui est reporté. On se demande beaucoup plus, en fait, qui a pu laisser, pourquoi l'a-t-il laissé, qui l'a porté, quelle est l'histoire en fait de cette personne qui l'a. Que si j'en étais restée à la première photo finalement de bout d'étoffe, en fait, de le déployer, de se rendre compte que c'est une chemise, telle taille, telle couleur, telle usure. On se dit que c'est un homme, bon, porté par une femme. Ça, en fait, c'est pas, il n'y a pas vraiment d'importance, mais
Et c'est quoi ces vêtements? Vous les avez trouvés où? C'est encore une fois entraînant.
Alors c'est des lieux
entraînants.
Cette jeune fille traîne.
Ouais, voilà,
en cherchant.
J'adore traîner. Non, là c'est un des endroits où on retournait très souvent avec une amie. C'est un ancien hôpital désaffecté à Ris-Orangis et on y allait très souvent. Puis là, j'ai fini par faire ce travail-là, trouver les vêtements ici au hasard, piocher. Donc je savais que c'était un endroit qui était squatté beaucoup par SDF ou ROM, ça dépendait. Et voilà. Donc je pense que ça vient de là, c'est des gens en fuite ou en...
Et qu'est-ce qui vous intéresse dans ces vêtements? C'est d'imaginer qu'ils les auraient portés de... Et puis pourquoi les photographier aussi? Enfin, il y a deux questions. Mais...
Pourquoi les nettoyer?
Voilà, pourquoi les nettoyer, les étendre?
Bah, pour leur redonner, pas l'aspect d'origine, c'est pas vraiment ça, mais pour leur...
Vous embaumez en quelque sorte. Vous embaumez.
Non, mais je pense qu'ils ont été portés plutôt dans l'état final, lavé. Même bon, je vous avoue, même lavé, c'était pas super l'odeur. Mais je pense qu'ils ont plus été portés comme ça. Donc c'était revenir à
la pièce d'origine.
Ouais, aux vêtements, vraiment vêtements. Parce que je pense que les deux premières étapes, c'en est pas. C'est encore une espèce de trace.
Un résidu, et vous essayez de lui redonner un peu de l'apparence qu'il pouvait avoir. Vous imaginez l'apparence qu'il pourrait avoir.
Voilà, mais peut-être plus pour donner... Oui.
Je ne sais pas.
Où vous traînez aujourd'hui, Émilie Vialet?
Traîner encore.
Mais quoi, pourquoi c'est pas... Enfin, traîner, déambuler ou chercher pour utiliser un mot
de... Vous aimez bien
le
terme traîner? Enfin, du verbe.
Traîner...
Est-ce que vous traînez avec votre
appareil photo? Non, je traîne pas parce que traîner, en fait, pour moi, c'est comme si on n'avait pas vraiment de but, alors que je vais vraiment, justement, voir beaucoup, beaucoup les espaces que je vais photographier. Donc, je les consomme beaucoup avant d'aller les approcher autrement. Donc, je traîne pas, mais marcher, ça, c'est sûr. Les explorer différemment, ça, c'est sûr.
Alors, qu'est-ce que vous explorez en ce moment comme...
Là, j'ai eu un trou d'un an et demi, de déambulation photographique. Mais mes grosses préoccupations, c'est de revenir sur les bordures d'autoroute, en fait, sur les zones qui ne sont pas réellement cartographiées. Voilà.
C'est-à-dire, je comprends pas.
En fait, tout ce qui est remblé d'autoroute, etc., qui était mon premier vrai travail dont on a parlé, là, sont des zones qui n'ont aucune identité au niveau cartographique, enfin pas réellement d'identité, en tous les cas, elles ne sont pas représentées. Voilà. Donc les zones blanches, Philippe Vassé en parle très bien dans son livre.
C'est à ça qu'on fait référence. Ouais. Hein.
Voilà, donc je vais travailler en collaboration avec lui, justement.
On peut repréciser le projet de l'écrivain Philippe Vassé.
Philippe Vassé est un écrivain qui a écrit 4 ou 5 livres. Voilà. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux questions de géographie. Et il a écrit un livre qui s'appelle Zone blanche, d'ailleurs. Le livre blanc, pardon. Voilà. Et donc dans ce livre, il a pris un principe qui est tout à fait simple, c'est-à-dire qu'il a pris une carte de l'île de France et il est allé explorer systématiquement les zones qui sont des zones blanches
sur la carte.
Sur les cartes, c'est-à-dire sur lesquelles il n'y a rien, a priori. Enfin, justement, c'est des zones a priori sur lesquelles il n'y a rien, qui n'appartiennent à personne, qui ne sont pas vraiment.
Et donc, il est allé. Quelque chose.
Et en fait, il y est allé les explorer vraiment systématiquement les unes après les autres. Et il a fait dans ce livre le récit de ce qu'on voit ou ne voit pas sur ces zones-là et qui est un livre qui est très beau parce que c'est un livre éminemment déceptif. Puisque dans ces zones, il y a rien. Ou alors, il y a ce que vous racontez. Il y a des gens qui traînent, des gens qui habitent, mais ce n'est pas non plus des rencontres passionnantes. Il y a des animaux, mais c'est des renards.
Oui, mais il y a beaucoup de choses, en fait. Contrairement au fait que ce soit une zone blanche, c'est que ce n'est pas déceptif. C'est même plutôt assez étonnant, tout ce qui s'y passe.
C'est étonnant. Puis quelque part, il y a toujours une fonctionnalité ou un remplissage par le vert, par la verdure. Enfin, tout ça, moi, c'est, photographiquement, en tous les cas, c'est un régal.
Et donc, du coup, vous allez travailler avec Vassé?
Voilà, je vais travailler avec lui parce qu'il va mettre en place en fait un site bientôt.
Qui existe déjà.
Oui, voilà, mais qui est revu où on va pouvoir participer. C'est un site participatif où on remplit avec nos images.
Alors, donc, je conseille à vous, mesdames, de venir jusqu'à Paris pour aller voir dans le 3e arrondissement, rue de Montmorency, l'exposition d'Émilie Vialet à la galerie Schum-Bronstein. Mais je précise aussi qu'il y a beaucoup de photos exposées et même d'autres qui sont visibles sur votre site. Alors, c'est pas pareil de les voir sur le site, mais c'est pas mal quand même. On mettra le lien, c'est d'ici, c'est pas déjà fait, sur le site de Studio 168, pour évidemment que tout le monde, ceux qui n'ont pas la chance de venir à Paris régulièrement, puissent avoir une idée de votre travail.
Merci.
Studio 168. 1968.
Ainsi de suite.
I was feeling sad, can't help looking back. Highways flew by. Run away, no sense of time. I'd like you to stay, want to keep you inside. Run away, lost my mind. I'd like you to stay, want you to be my prize. Run away, lost my mind. I'd like you to stay, want you to be my prize. I was feeling sad, can't help looking back. Highways flew by. Sense of time, I'd like you to stay, want to keep you inside. Thank you.
J'aime beaucoup la voix de. J'aime
alors, beaucoup la voix de
Karen
la chanteuse
O,
des Yé Yé.
La chanteuse des Yé Yé Yé. C'est un album qui vient de sortir. Le titre, c'est Runaway.
Ah, Karen O, c'est la chanteuse des Yé Yé Yé.
Oui.
D'accord.
Ouais. Elle a une trentaine d'années, je crois. Et le dernier album, là, s'intitule It's Blitz. Et elle prend un œuf dans sa main. Et je ne sais pas si elle va préparer des crêpes, mais elle fait exploser l'œuf d'une pression de sa main droite.
Ce qui est extrêmement difficile.
Ce qui est très dur, oui. Mais voilà, c'est pour montrer qu'elle est jeune et vivante comme la musique qu'elle fait, ce qui n'est pas exactement ce que reflète le titre qu'on vient d'entendre. Mais c'est un très beau titre choisi par Thomas Beau ce soir. Parce qu'il a entendu parler d'autoroute juste avant, alors Runaway. C'est un garçon qui a la suite dans les idées.
Surtout qu'il maîtrise très très bien la langue anglaise.
En plus. Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
On parlait difficilement, j'ai essayé de vous présenter, ça a été difficile à cause de Xavier tout à l'heure, parce que voilà, vous êtes plusieurs auteurs. Il m'a un peu embrouillé, comme on dit, sur le nombre de mains qui ont dû écrire cet ouvrage. Donc l'ouvrage, je le redis le titre, Le guide des baissés branchés. Et vous êtes toutes les deux, donc Laure de Charette et Inès Lacaille, auteur de ce livre. Alors, c'est un guide. C'est un guide, visiblement, divisé en 8 chapitres. Je ne sais pas à l'usage de qui, mais d'abord, on va essayer de comprendre qui sont ces baissés branchés. C'est vrai qu'on connaissait le terme BCBG, on a beaucoup parlé des bobos. Il y a une certaine catégorie de la population qui est relativement peu représenté dans les médias, dont on parle peu, c'est les BCBG. Alors j'imagine que c'est peut-être en partie ce qui vous énerve et ce qui vous irrite.
Il était justement temps voilà, de leur rendre un petit peu hommage et de montrer que les BCBG bah, n'existent plus tellement, puisqu'ils ont évolué aussi à leur manière. Et là, les BC branchés sont cette fois les enfants de BCBG. 25 ans plus tard, ils n'ont pas viré Bobo. Et donc, ils ont évolué à leur manière en gardant certaines valeurs BCBG, mais en évoluant. Et en devenant très connecté au monde moderne, très branché en fait.
Très branché, enfin pas si branché que ça quand même.
Un peu branché quand même.
Ah oui, alors Inès, qu'est-ce qui est très très branché, Inès Lacaille, chez les BC branchés?
Écoutez, ils se sont quand même affranchis de beaucoup de valeurs que leur avaient apportées leurs parents.
Oui. Comme?
Plus de liberté dans leur vie, plus de liberté dans la façon dont ils veulent... évoluer avec leur famille, avec leur mari, avec leurs enfants, avec leurs amis, pendant leurs vacances, dans leur travail.
Quelle liberté, par exemple, avec leur mari
puisqu'ils sont là, derrière la vitre en régie.
Qu'ils apprennent en direct ce soir quelle liberté vous prenez.
Par exemple, les femmes ont le droit aujourd'hui, ou du moins revendiquent le droit d'avoir un job, de travailler, de gagner leur vie, d'avoir une certaine indépendance
De ne pas rester
financière,
mère
voilà,
de famille au foyer.
De vivre leur vie et d'élever leurs enfants et en même temps d'aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe dans l'open space ou en montant sa boîte, ou voilà, elles n'ont plus froid aux yeux, peut-être comme leur
ce
mère.
Ce qui est votre cas, ne tournons pas autour du pot. Vous êtes des baissés branchés. Baissés, oui, je dis bien, c'est compliqué ce terme.
Baissés branchés.
Vous êtes des baissés branchés d'une certaine manière.
Oui.
C'est tous autant que vous êtes auteur. Alors, il y a un petit descriptif, hein, je ne sais pas si... Alors, il y a donc Jean-Baptiste Giraud, parce qu'il vous présente. Hein. Alors, il n'est pas là ce soir, mais on va quand même parler de lui. 37 ans, ex-scout et chef-scout, père de 5 enfants, a vécu 18 ans dans le 16e arrondissement et 8 ans dans le non moins dangereux 17e arrondissement. Alors lui, il est journaliste, par ailleurs, à la radio. Et dans la radio, vous me disiez,
BFM.
Notre-Dame.
BFM et Notre-Dame.
Alors, Laure, c'est vous, Laure de Charette, 26 ans, a grandi au lycée Blanche de Castille du Chesnay.
C'est près de Versailles. Une petite banlieue chic de l'ouest parisien, pas très loin de Versailles.
Ouais. Lycée privé?
Privé, catholique.
Voilà, et rêve de fonder...
Blanche de Castille, le jour où ça va pisser, Blanche de Castille, ça public.
Oui, un lycée républicain, ce sera dur. Rêve de fonder une dynastie avec son fiancé versaillais. Elle assume sa particule, donc Laure de Charette, vous avez un lien avec Hervé de Charette, il me semble.
Oui, c'est un oncle éloigné. Voilà. Ce sont des grandes familles, les baissés branchés, donc ils ont forcément tous des ramifications de cousins, d'oncles, plus
un lien
ou moins illustres.
Que vous partagez avec Inès Lacaille.
Oui.
Mon oncle a marié Inès, mais je ne connaissais pas encore Inès, je l'ai appris sur le tard.
Voilà, donc c'est ça, parce qu'il y a l'idée
de réseau, groupe,
hein, de réseau, de tribu même.
Facebook, nous, les BC branchés, on fait Facebook bien avant que Facebook n'existe.
Voilà. C'est un Facebook matériel, en fait.
Ils ont le bottin mondain.
Voilà. Oui, on va en venir au bottin mondain.
Depuis 1903, premier réseau social français, du moins mondial.
Alors, il y a Flore également qui n'est pas là avec nous, 32 ans, parce qu'elle était à la chorale ce soir, Flore.
Voilà, Flore chante.
Oui, c'est une des activités du BC Branché, la chorale. Voilà. Ouais. Alors, 32 ans, mère de 4 enfants, et elle est versaillaise d'adoption. Et puis elle a également un travail, elle travaille notamment à Versailles Events.
Elle a plusieurs travails, oui.
Ouais. Bon. Et puis alors vous, Inès, 39 ans.
Oui.
Alors tout de suite, c'est Inès, femme d'ex-militaire. C'est-à-dire que c'est vous, votre âge, et puis tout de suite, votre situation vis-à-vis de votre mari. Femme d'ex-militaire.
Oui, d'abord la situation avec le mari, c'est important.
Oui.
C'est important, un mari, c'est important. Voilà, et puis après ça, il y a les enfants, et puis après, il y a le travail.
D'accord, donc votre âge, le mari, les enfants, le travail. D'accord.
Voilà.
Et alors, femme d'ex-militaire, lieutenant-colonel Saint-Cyrien, le must, hein, c'est dit, il est là, il nous regarde.
Oui, le top. Voilà, école de guerre, il y a la totale.
Voilà. Et vous avez 3 enfants.
Voilà.
Et alors, vous dites aussi, parce que c'est, j'aborde un peu ce livre de manière kaléidoscopique à travers votre existence à vous. Vous ne m'en voudrez pas, parce que ce que vous dites à travers votre présentation, c'est plein de thématiques qui sont développées dans le livre. Et notamment, vous dites dans votre présentation, vous avez survécu à 5 ans de rallye. Alors ça, c'est très important. C'est rallye comme lieu de sociabilité, de connaissances. Et vous nous disiez juste avant le début de l'émission que votre mère organisait.
Voilà.
C'est, alors, deux, trois mots pour nous présenter les rallyes et puis nous dire un petit peu comment vous avez grandi avec ça, Inès Lacaille.
Alors en fait, un rallye, c'est tout simplement quand une jeune fille commence à grandir, 12-13 ans, on se dit que c'est important qu'elle se fasse quand même des bonnes relations avec des bonnes amies, des bons amis. Donc, maman a en effet créé un rallye.
Oui, les BC Branché disent toujours maman plutôt que ma mère. Ça, j'ai remarqué aussi.
Oui, mais c'est maman, c'est maman. Elle m'écoute peut-être ce soir. Alors,
on la salue, voilà. Madame.
Parce que maman est une BC branchée. Il n'y a pas que notre génération aussi. Il y a des BC branchés, des petits, des grands, des moyens.
Oui. Attendez, ouais, allez, continue avec maman et puis après, on reviendra sur cette question. Parce que si, oui,
alors, donc, elle organisait votre mère.
Donc, ma mère organisait, ma maman,
votre
organisait
maman, pardon.
Des rallyes. Le rallye.
Qui avait un nom. Ils ont tous des noms.
Oui, ils ont un nom.
Il était célèbre, celui qui organisait votre maman.
À l'époque, oui, il était assez connu.
Il s'appelait comment ?
Il s'appelait Gazo de Beaugard.
Mais c'était un cheval, Gazo de Beaugard, non ?
Non, c'était Idéal du Gazo.
C'était Idéal du Gazo, pardon. Ouais. Excusez-moi.
Voilà. Mais Gazo, c'est mon nom de jeune fille. Et de Beaugard, c'était le nom de jeune fille de ma cousine.
D'accord.
Mais alors, voilà. Vous êtes mariée avec un Lacaille.
Voilà.
Oui, ça. C'est une bonne famille.
C'est une très bonne famille de 8 enfants, BC branché aussi.
D'accord, alors, voilà. On reste entre... Oui, je vous laisse parler, Xavier.
Est-ce que je peux dire un mot sur les rallyes qui ont quand même énormément évolué par rapport, je crois, au cliché régulièrement véhiculé. Moi, je me suis rendue il n'y a encore pas très longtemps...
Vous êtes jeune
pour
encore.
Des intérêts, non, mais tout à fait, en tant que journaliste, je me suis rendue.
26 ans.
Pour voir un petit peu justement comment ça avait évolué pour les besoins de ce guide des BC branchés.
Oui.
Et j'ai bien vu que ça n'a plus rien à voir avec les rallyes BCBG des années 80.
Alors, qu'est-ce qui a changé ?
Les petites minettes ont une petite robe en soie argentée mi-cuisse, c'est champagne open bar. À l'heure de la fin de l'open bar en France, je peux vous dire que dans les soirées rallyes, c'est champagne open bar.
Rien ne va plus.
Rien ne va plus, ils savent s'amuser, les soirées sont festives, déjantées, ça commence à minuit, ça se termine à 4h du matin. À Paris, les rallyes n'ont rien à envier aux grandes soirées parisiennes déjantées. C'est toute la société bien née qui s'y amuse.
C'était comment à votre époque, Inès ?
C'était plus soft, disons, mais pareil, c'est-à-dire qu'en fait, ça démarrait assez jeune.
Ouais. Ouais,
quand je dis jeune, c'est-à-dire 14-15 ans, et dès le bac passé... en fait, ça s'arrêtait, en fait. Et c'est le cas encore aujourd'hui, je crois, alors, non ?
Ça s'arrête vers 20 ans, voilà.
Voilà.
Et je pense que tu as dû vivre dans ta jeunesse les rallyes BCBG. Et aujourd'hui, voilà, c'est important de souligner que les rallyes sont devenus BC branchés.
Alors, s'il vous plaît, faisons 5 minutes de terminologie. Je ne comprends pas. Enfin, je ne vais pas le formuler comme ça. Comment ? Alors, vous dites, voilà, les BCBG d'aujourd'hui sont devenus des BC branchés. Ça, c'est la thèse que vous nous
Absolument.
Avez expliquée.
Absolument,
ouais. Mais vous, Inès, vous nous dites que votre mère était baissée, branchée déjà. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment ? Est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est qu'un baissé branché par rapport à un BCBG et par rapport surtout à un branché ?
Déjà, un BCBG peut devenir un baissé branché. Ce qui était le cas, par exemple, pour ma maman.
Alors en quoi? Non mais en fait, ce que vous nous avez donné
c'est
comme
être moderne de mentalité.
Voilà, ils ont évolué, ils ont muté. Ils vont à la messe le dimanche, seulement ils y vont plus une fois par semaine. Ils y vont au retour d'une soirée un peu festive une fois par mois. Ils arrivent un quart d'heure en retard, ils repartent 10 minutes avant la fin. Ils portent une chevalière et en même temps, ils vont les minettes vont porter le dernier petit top H&M à la mode. Voilà, ils ont gardé les valeurs BCBG et en même temps, ils se sont ouverts, ils se sont connectés.
Donc, ce que vous nous expliquez, c'est que la bourgeoisie, que vous... donc, si je vous comprends bien, on aurait dû considérer comme quelque chose de complètement qui n'a pas bougé pendant des dizaines d'années. Mais ce qui est quand même une perception de la bourgeoisie assez, un peu rigide. La bourgeoisie, elle a évolué aussi. Imaginons que la bourgeoisie aurait très peu évolué. Et tout à coup, depuis là, une génération, elle aurait absorbé les valeurs de la modernité que sont, par exemple, une plus grande égalité entre les hommes et les femmes, une plus grande... C'est ça
le fond
de votre
thèse. Elle est
moins
rigide, tout simplement. Elle est beaucoup moins rigide. Si vous voulez, en ce qui concerne la religion, c'est beaucoup moins rigide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme baissée branchée peut partir à Punta Cana pendant le carême, pendant la semaine de carême. Donc, elle s'offre quand même une certaine liberté. Mais à côté de ça, un mois plus tard, elle pourra aller faire le pèlerinage des mères de famille à Cotignac et marcher 70 km.
Pourquoi
à Cotignac, le pèlerinage des mères de famille.
Voilà.
Mais pourquoi est-ce que ça, c'est être branché? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Parce qu'être branché, ça veut... Même si... Alors nous, on a eu une grande discussion dans le bureau pour savoir si le terme branché était encore un terme qu'on pouvait utiliser, etc. Des théories hautement référencées à des questions sociologiques s'affrontaient, vous pouvez imaginer, sur cette question de savoir ce que c'est qu'un branché ou pas. Enfin, en gros, un branché, ça veut dire des gens qui s'intéressent vraiment à la question des avant-gardes, qui sont des gens... Oh. Comment ?
Oui, c'était
oui,
ça,
c'est ça,
votre définition.
Oui, en gros, c'est des gens qui s'intéressent à des avant-gardes dans des champs qui sont très différents. C'est-à-dire que les branchés, ils vont aller voir l'avant-garde de l'art contemporain, l'avant-garde de la littérature, s'habiller comme ça, avoir la coiffure qui est, c'est-à-dire aller chez Tony Ngaï avant que les BCBG aillent chez Tony Ngaï, enfin, ce genre de choses, par exemple. Bon, voilà. Et moi, ce qui m'étonne, c'est l'accolement branché là-dedans.
Moi, je pense que le terme branché que vous venez de définir, c'est un branché vu par un bobo. Et nous, on voit les branchés via les anciens BCBG qui sont branchés à BFM TV, à France Info, qui sont branchés à l'actualité, qui sont branchés à la mode. Elle n'arrête pas de faire des papiers sur le look preppy, par exemple, qui revient très fort.
Oui.
Le look preppy, comme les
Kitsune,
Anglais.
Comme la marque
c'est quoi,
Kitsune,
c'est le look BCBG
par exemple.
C'est la petite ballerine, c'est le petit jean slim.
Années 30.
Voilà, les jeunes du sentier, par exemple, qui reprennent le look un peu minet, avec une coiffure un peu déstructurée, avec la mèche de gel qui tient les cheveux. Ça, c'est ni plus ni moins que les néo-BCBG qui ont inventé ça. Vous faites la sortie de Passy, Franklin, Saint-Louis de Gonzague, vous avez typiquement le look minet preppy, il vient des BC branchés, il vient pas d'ailleurs. Ils sont assez prescripteurs en termes de mode. Dans le livre, voilà, dans le guide, on fait parler un historien de la mode qui explique justement que les BC branchés sont à l'avant-garde de cette mode-là.
Ce que vous voulez faire, vous, en somme, alors qui sont-ils, où sont-ils, que font-ils? C'est un peu ça, un petit peu le livre pour essayer de revaloriser finalement cette catégorie sociale, en quelque sorte.
Cette tribu,
une fois de plus, qui semblerait mal aimée, mal connue surtout.
Mal connue surtout, victime de beaucoup de clichés véhiculés qui ne sont plus très vrais. Les gens sont restés sur l'imaginaire BCBG d'il y a 25 ans, mais...
Que étiquette que vous n'aimez absolument pas. Alors, il y a 8 chapitres et puis vous amusez à le faire de manière ironique. Donc, il y a une approche anthropologique. Ensuite, c'est l'habitat, l'aspect économique et la biologie humaine, élevage et pâturage, avec en chapitre scout toujours, approche ethnologique, consommation et futurologie. Après, bon, bref. Si on reste très objectif, vous nous dites et vous nous apprenez que si on s'en tient au bottin mondain, qui est la source, en fait, une de vos sources principales aussi, c'est 43 000 familles. C'est ça à peu près les chiffres.
Grosso modo, 43 000 familles, sans compter 43 000 noms, c'est-à-dire sans compter les enfants, sachant qu'une famille a en moyenne 5 ou 6 personnes. Donc on est autour de 200-250 000 personnes.
On apprend aussi que c'est évidemment plus vers l'ouest qu'ils se déportent, qu'ils habitent. Et puis comme ils habitent ensemble, en tribu, ils sont tous, donc c'est le 16e arrondissement à Paris, le 17e, Versailles, et
mais c'est comme toutes les
sortes.
Toutes les tribus, quelque part.
Les bobos habitent à Montmartre, dans le 19e, à Gambetta.
Vous n'aimez pas les bobos, hein ?
Ah, j'adore les bobos.
Ah
j'ai
bon,
vécu
d'accord.
à Montmartre
d'accord, parce
un
que
grand
moi,
nombre j'ai... d'années au milieu d'eux et j'en ai été ravie.
Est-ce que vous êtes sérieuse ?
Mais non, tu vois bien que...
Non.
Tu vois bien qu'elles ne sont pas sérieuses.
On ne s'est pas du tout pris au sérieux, en tout cas, en écrivant ce livre. On s'est vraiment éclatés à 4. Et c'était une réelle partie de plaisir.
Qu'est-ce que vous en attendez de cet ouvrage, ce guide ? À qui il est destiné, d'une certaine manière ? Parlez, répondez individuellement. pas forcément communément. Vous, que, par exemple, Inès, qu'est-ce que...
D'abord, je pense qu'il se destine à ceux qui se reconnaîtront dedans. En plus, il y a un test à la fin. Donc, si vous ne savez pas si vous êtes baissé branché, faites-le.
Oui, bon, enfin, en même temps, on comprend vite si on est ou pas. Hein.
Enfin, je veux dire, mais si vous avez envie de savoir si vous l'êtes ou pas.
J'ai regardé, mais moi, c'est clair que je ne suis pas du tout.
Vous qui avez fréquenté le lycée La Bruyère de Versailles, n'est-ce pas, au-delà?
Mais oui, mais moi, j'étais une vraie paria là-dedans. Mais bon, j'essayais quand même de leur ressembler parce qu'il faut bien s'adapter à l'environnement dans lequel on est. Alors, donc, donc juste répondez-moi à la question, puis après, on fera le test pour que les auditeurs savent où ils sont, s'ils en doutent. Et pour vous, alors pourquoi ce livre? Alors donc, vous, c'est une pierre à la tribu. Hein,
c'est surtout parce que j'ai été
quand même marquée. Pour les soirées entre cousins et les potes.
Non, c'est surtout en fait j'ai été marquée depuis que je suis toute petite. Chaque fois que je voyais des émissions de télévision, de radio, je trouvais qu'on les ridiculisait, les BCBG.
Ça c'est vrai, vous avez
Et quand
raison.
Jean-Baptiste m'a proposé cette idée, je me suis dit c'est bien parce qu'on a des choses à dire, on est des gens sérieux. On travaille, on remplit bien notre vie. Je pense que ma vie, elle ne s'arrête pas. Hein. Il est 1h du matin, mes enfants dorment. Mon mari m'accompagne, on remplit bien notre vie et on a beaucoup de choses à dire. Et donc voilà, j'espère qu'on nous entendra.
Oui, non, mais ça, il n'y a aucun souci. Vous êtes quand même pas dans une société où il y a une ségrégation des BCBG.
Non, mais bon, les BCBG sont catholiques aussi. Et voilà, je trouve qu'il y a quand même... on n'est pas toujours
représenté,
on n'est pas toujours défendu.
Ouais.
Et voilà.
Oui, très bien. Alors, et pour vous, alors, qu'est-ce que l'or de Charette, c'est aussi une manière de revendiquer une identité, de faire ce livre?
C'est pas tant ça. Moi, je me suis dit surtout, j'ai l'impression que les valeurs des BC branchés sont finalement en train de redevenir très à la mode. On parle beaucoup d'un retour à la famille, on parle beaucoup d'un retour aux religieux. Qu'ils soient catholiques, musulmans ou peu importe, aux religieux, à la notion de religion. On parle beaucoup d'un retour aux valeurs écolo. Moi, j'avais en souvenir des petits cousins scouts qui passaient leur week-end sous la tente à faire du feu, à recycler les déchets, à brûler les ordures. Et je me suis dit, finalement, les valeurs qu'ils défendent depuis toujours, qu'on a jugées un peu ringardes, je me suis demandé si finalement, j'ai l'impression que la société est globalement en train de revenir à ces valeurs baissées branchées qui ne sont peut-être pas aussi ringardes. On a bien voulu leur faire croire.
Alors, on va finir par le quiz, si vous voulez bien. Le livre est assez impressionnant. Il sort le 17 mai à l'Archapelle. Impressionnant par toutes les thématiques qu'il traverse, auxquelles il essaie de donner des réponses, des renseignements.
Et les magnifiques dessins d'Inès Lacaille.
Oui, bien sûr, mais je ne les ai pas bien vus. Donc, comme j'ai les manuscrits, les épreuves sans les dessins, je suis désolée. Je voulais juste... on fait le quiz, c'est ça, tout de suite, Xavier?
Oui, enfin, oui, Xavier, ce que vous voulez, mais une question.
Attends, lisez le quiz, Xavier. Vous êtes un peu baissé.
Enfin, de la littérature ce soir.
Voilà.
Alors, deuxième question. Votre femme a un rêve.
La question, c'est êtes-vous un baissé branché?
Oui, bien sûr, la question globale. Compris, voilà. Ça, c'est la question numéro 2 du test. Votre femme a un rêve. A, un fils militaire, un autre évêque, un troisième pour reprendre la boîte de papa, deux filles à la Légion d'honneur, mariées ensuite à des cirards.
Oh là là, c'est difficile parce que toutes les réponses,
non,
ça pourrait être...
B. Non, ça c'est une seule réponse. B. Construire une famille saine et rendre son mari heureux. C. Faire carrière dans la finance ou monter sa boîte.
Pourquoi vous me regardez?
Parce que quand on parle d'un mari si rare, etc., machin, forcément je pense à vous. D. Tout plaquer et s'installer dans le Luberon pour élever des moutons. Donc sur ces quatre réponses, quelle est celle qui est censée être...
Rendre heureux son mari.
Construire une famille saine et rendre son mari heureux, sachant que le fils militaire, c'est un peu trop BCBG, c'est dépassé, il n'y a plus personne qui rêve de ça,
d'accord,
me semble-t-il, enfin, plus grand monde, y compris à Versailles, dans les bastions militaires. Faire carrière dans la finance, c'est un petit peu trop bling-bling jusqu'au boutiste, c'est pas non plus les BC branchés. Et tout plaquer et s'installer dans le Luberon, c'est trop idéaliste, voire baba. Hippie, chic.
Et alors, mais rassurez-moi, s'il y a bien une permanence quand même, les BC branchés votent à droite comme votaient les BCBG.
Ils n'ont pas trop évolué là-dessus.
Dans BC branchés comme dans BCBG, il y a BC. Donc forcément, il y a quelque chose qui lie les deux.
D'accord. Non, mais ça me rassure qu'il y ait quand même cette permanence. La deuxième question, sur votre mari a un rêve.
Tout ne fout pas le camp.
Ah oui, parce qu'on a fait votre femme un rêve. Ouais, attends, il y a peut-être un encore plus... Il y a un truc très rapide à dire, même ça va être trop facile.
Allez-y, vite, vite.
Votre voiture de tous les jours. Mais non, mais c'est bon, on a encore 1 minute 15. Un 4x4 Nissan Terrano, une 807 ou une C8, une 505 familiale Un cabriolet BMW 23.
Z3.
Moi, c'est clair que je préfère les cabriolets, mais bon. Ah oui, Z3.
Alors,
ouais,
et donc, dans ça, c'est quoi la voiture laissée branchée?
J'ai vu cabriolet. La 500, la 807.
La 807, oui.
À mon avis.
Surnommée la catomobile.
Parce que la 505, c'est les vieux BCBG, enfin les traditionnels, voilà. Les BCBG traditionnels.
Ou la vieille 806. La vieille 806, maintenant, c'est la 807 avec GPS.
Et le 4x4 Nissan.
Bah non, c'est un peu bling-bling, ça. Un peu bobo, ouais. Qui va dans sa maison le week-end et qui croit qu'il a une allée boueuse avant d'y arriver. Mais...
ouais, qui pollue. Bon, bah, en tout cas, à suivre. Ça sort le 17 mai, édition de l'Archipel, le guide des BC branchés.
Et merci. L'exposition d'Émilie Vialet a lieu à la galerie Schumm-Bronstein dans le 3e arrondissement à Paris, c'est rue de Montmorency. C'est jusqu'au 16 mai, c'est ça, c'est ça.
Prise de son.
Merci.
Allez-y, finis.
Bah écoutez, ce soir c'était Fabien Eliès qui a assuré la prise de son. Vous écoutez France Culture, il est 1h du matin. Bonne nuit à toutes les mamans, à tous les papas, à tous les enfants, à tout le monde, quoi, en somme, à toute la famille, aux cousins.
Spécial dédicace.
Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.